Alors Sigui, notre président de ce matin, a bien pris soin, plutôt deux fois qu'une, de vous saluer. Comment commencer sans vous saluer, vous dire bonjour à toutes et à tous. Que chacun vraiment se sente accueilli dans notre rassemblement. Alors dans le temps de prière qui nous a été accordé, il y a une sœur qui a commencé sa prière en remerciant le Seigneur pour cette matinée de réjouissance. Et elle l'est, effectivement. Mais c'est une matinée également placée sous le signe du témoignage. Et dans notre parcours que nous avons actuellement dans cette église sur l'évangile de Marc, j'ai choisi le chapitre 3 et les versets 13 à 19 où, c'est un passage qui est court, le Seigneur Jésus choisit ses disciples. Donc je vous propose de lire ce passage. Donc évangile de Marc, chapitre 3, les versets 13 à 19. Il, c'est-à-dire Jésus, monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Jusque-là, le passage de la parole de Dieu, la Bible. Alors pendant le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus, les 12, comme il est noté dans ce passage, furent appelés disciples. Ils suivirent Jésus-Christ, apprirent de lui et furent formés par lui. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, les disciples furent appelés apôtres. Toutefois, le terme de disciples et d'apôtres furent et sont encore utilisés un peu de manière interchangeable. Alors arrêtons-nous un moment, si vous le voulez bien, sur le choix des disciples. L'évangile de Marc, dans son ensemble, mentionne l'étroite association de Jésus avec les 12, qui étaient désignés pour être constamment avec lui. Il nous indique dans cet évangile de Marc ainsi la façon dont Christ a choisi lui-même d'éduquer ses disciples. Non seulement une éducation par l'enseignement, mais aussi une éducation par l'exemple et le dialogue. Ces 12 constituaient le noyau de base d'une nouvelle communauté à venir, l'Église de Jésus-Christ, dont cette Église, ce matin, est une représentation physique, géographique, certes limitée, mais néanmoins réelle. Qui étaient donc ces disciples que Jésus a choisis? Les 12 disciples apôtres étaient des hommes ordinaires que Dieu a utilisés de manière extraordinaire. Parmi les 12, il y avait des pêcheurs. Alors c'est dans les deux sens, hein, le sens de pêcher, pêcheur. Mais là, c'est plutôt le sens de pêcheurs avec des filets, hein, pour attraper, manger et vendre des poissons. Donc il y avait des pêcheurs, il y avait un collecteur d'impôts, c'est pas la vie que vous avez sur les collecteurs d'impôts, et il y avait même un nationaliste militant fougueux. Les évangiles racontent les défauts, les luttes, les doutes de ces 12 hommes qui suivaient Jésus-Christ, qui étaient en fin de compte des hommes comme nous, de la même nature que nous, des hommes de tous bords, avec des vies et des engagements divers et variés, avec des limites particulières, des limites personnelles. L'invitation du Seigneur à le suivre est une invitation pour tous, c'est-à-dire sans distinction d'origine, qu'elle soit sociale, familiale ou professionnelle. Après avoir été les témoins de la résurrection et de l'ascension de Jésus au ciel, le Saint-Esprit a transformé ses disciples apôtres en de puissants hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde, celui de leur époque, mais le nôtre également, par la puissance de leurs écrits inspirés qui visent à transformer des vies, des âmes perdues, en des personnes prêtes à servir le Dieu vivant et vrai. Alors dans ces temps troublés que nous vivons, l'emploi de certains qualificatifs peuvent susciter l'interrogation, voire la méfiance et la suspicion parmi nos contemporains. Il est donc utile de préciser de quoi ou de qui l'on parle quand on parle de disciples, et plus exactement, ou plus précisément, quand on parle de disciples de Jésus-Christ. Cela présente sans doute également un intérêt pour le chrétien lui-même, ne serait-ce que pour lui permettre de réaliser en quoi sa foi l'engage. Quelle est sa réelle position en Jésus-Christ? Et d'où ou de qui il la tient? Alors pour ce matin, deux éléments. Qu'est-ce qu'un disciple? Et un disciple, pourquoi faire? Alors premièrement, qu'est-ce qu'un disciple? Alors, au sens large de la définition de notre bon vieux dictionnaire, un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui fait partie de son école. Deuxièmement, c'est une personne qui suit l'exemple de son maître à penser, qui adhère à sa doctrine. Et troisièmement, c'est une personne qui fait ce que son maître l'invite à faire. C'est donc le sens là, le sens général de disciple. Mais qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? Un théologien, commentateur donc de la Bible, a dit ceci. Pour avoir la meilleure définition d'un disciple de Jésus, il faut d'abord s'entendre sur la meilleure définition d'un chrétien. À partir de quand on peut dire qu'on est chrétien, disciple de Jésus-Christ? Alors un chrétien est celui qui croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui le reconnaît comme sauveur et Seigneur de sa vie, Alors cette manière de parler peut paraître sans doute un peu religieuse. Donc on va préciser un petit peu. Un chrétien, ce n'est pas celui qui a été baptisé quand il était tout petit, qui a reçu une éducation chrétienne, auquel cas on parlera de chrétien sociologique. Celui-ci est de culture chrétienne. Mais il n'est pas vraiment chrétien, pas vraiment disciple de Jésus-Christ, car il n'adhère pas à la confession de foi chrétienne. Il n'a pas de relation réelle, concrète avec Christ. Car être chrétien, c'est un choix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est approprié la foi de manière personnelle et qui vit une relation vivante et vraie avec son Dieu. On appelle conversion cette appropriation personnelle de la foi. C'est un changement d'attitude. C'est un demi-tour. C'est un changement d'orientation de vie. Alors la conversion peut être instantanée, on en connaît des témoignages, il y en a aussi dans la parole de Dieu. Mais la conversion peut être aussi progressive, c'est-à-dire étalée dans le temps, en tant qu'une assimilation réfléchie et assumée d'une éducation chrétienne. On devient chrétien parce qu'on a entendu le message de l'Évangile, parce qu'on l'a compris, et on y adhère de tout son être. C'est-à-dire en engageant son intelligence, sa volonté, mais aussi ses sentiments, son cœur. Un chrétien est donc celui qui reconnaît Jésus comme son sauveur, qui s'en remet à lui pour son salut éternel, qui s'en remet à lui pour le pardon de ses péchés, qui s'en remet à lui pour sa vie entière. Il est celui dont la vie a été transformée, restaurée. Il a reçu une vie nouvelle de la part de Dieu. Un chrétien authentique, disciple de Jésus, n'est pas une personne radicalisée. Le disciple de Jésus est une nouvelle personne. Pas seulement une personne transformée, oui, c'est vrai, mais une personne d'une nature nouvelle. Une personne, c'est-à-dire une personne portée à aimer son prochain, portée à suivre fidèlement son Seigneur. Il me semble que chacun conviendra que ce n'est pas une disposition naturelle, celle de notre première nature, que d'être porté à aimer Dieu et à aimer son prochain. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Un chrétien, c'est donc quelqu'un qui veut vivre en disciple, conséquent de Jésus-Christ. Cela signifie qu'il est un apprenti à l'école de Christ. Il essaie de vivre dans l'éthique et les valeurs de l'Évangile. Il est soucieux de ce que l'on appelle la sanctification. Quel mot ? C'est-à-dire, c'est le fait de refléter Christ, de glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? Je vous propose une citation. Au IIIe siècle, Cyprien, futur évêque de Carthage, écrivait à son ami Donatus. Je le cite. « Ce monde est mauvais, Donatus. Profondément mauvais. Mais j'y ai découvert des gens paisibles et saints qui ont appris un grand secret. Ils ont trouvé une joie qui est mille fois supérieure à tous les plaisirs d'une vie de péché. Ils sont méprisés, ils sont persécutés, mais cela ne les décourage pas. Ces gens, Donatus, sont les chrétiens. Et désormais, j'en fais partie. Quel témoignage ! Celui de Cyprien, mais surtout celui des chrétiens de son époque, qui ont donc été de véritables disciples, dans leur vie, montrant dans leur vie l'efficacité de l'évangile de Jésus-Christ, qui ont été de véritables modèles, de véritables poteaux indicateurs pour amener des personnes au salut de Christ. Alors, pour avancer dans notre propos, qu'est-ce qu'un disciple ? Nous pouvons voir ce que un disciple, un vrai disciple, n'est pas. Prenons le cas de Judas, le 12e homme qui a semblé au premier abord répondre à l'appel de Jésus, mais qui finira ensuite par le livrer à ses bourreaux. Alors si le cas de Judas, comment dirais-je, est imprégné de mystère, et il l'est, on ne comprend pas tout, hein, c'est là qu'intervient la foi. Mais si ce cas est imprégné du mystère, il nous adresse néanmoins de sérieux avertissements dont nous devons tenir compte. Nous constatons que la charge de disciple, c'est-à-dire son travail, son rôle, auquel a été appelé Judas Iscariot, n'a pas eu d'impact positif sur son statut éternel. Notre salut ne dépend pas de ce que nous faisons, ne dépend pas de nos bonnes œuvres, si nombreuses soient-elles, mais dépend de ce que nous sommes réellement. Un disciple, celui de Jésus-Christ, c'est celui qui est prêt à tout quitter de sa manière de vivre, tout quitter de sa manière de penser, pour suivre, servir et vivre de Christ seul. Or, l'avarice semble avoir été pour Judas un des vices qui l'aurait conduit à son acte. Il nous est dit dans Jean 12, 6 que Judas tenait la bourse et prenait pour lui ce qu'on y mettait. Sa tendance au chapardage l'a sans doute prédisposé à vendre son maître pour quelques pièces d'argent. On parle donc, dans cet exemple de Judas, d'un homme qui ne se donne pas à Jésus sans réserve. Un homme qui ne désire en vérité qu'une seule chose, conserver son indépendance, sa manière de vivre. Je veux bien te suivre. Je réponds favorablement à ton appel, mais sous condition. Celle de conserver mes prérogatives, mes habitudes de vie, mes relations, mes tendances. Ce sont là les caractéristiques d'un faux disciple. les caractéristiques d'une simple expérience de vie, d'une aventure dont la fin est tragique. En cela, le théologien Henri Blocher parle d'un Judas qui a voulu désespérément être lui-même, désespérément rester lui-même, en refusant la transformation profonde et bienfaisante et salutaire que Jésus lui a proposée. Lors du dernier repas, Judas reçoit de son Seigneur un dernier acte de loyauté, une invitation à la loyauté. Quand Jésus lui dit d'agir promptement, il place son disciple devant un choix décisif. Renoncer à sa trahison ou suivre irrémédiablement la voie de sa fourberie. Le péché de Judas est marqué par la circonstance aggravante d'avoir tourné le dos à toutes les grâces et à tous les appels de Jésus. J'espère que ce n'est pas le cas ce matin. Parmi nous, quelqu'un tourne le dos à toutes les grâces et à tous les appels du Seigneur. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ? C'est une personne qui renonce à lui-même, qui tourne le dos au péché, qui accepte le salut de Dieu. Jésus dira dans Luc au chapitre 9, au verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors maintenant, ça a marché ? Non ? Qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple pour quoi faire ? Bon, ça ne va pas passer a priori. Ça peut changer peut-être ? Voilà, un disciple pour quoi faire ? Alors c'est la personne qui accepte l'aide du Seigneur à vivre une vie qui l'honore, qui désire témoigner de lui auprès de ses contemporains. Si nous comprenons bien la parole de Dieu, nous constatons que la vie de disciple commence par un acte d'obéissance. Se faire baptiser d'eau, c'est Guy qui a introduit ce moment tout à l'heure par ça. C'est le premier pas de l'obéissance de la foi. Et c'est ce qu'a fait Jean le Baptiste ce matin. En obéissant à Dieu, il témoigne au monde, c'est-à-dire à vous tous qui êtes là ce matin, de ce que Dieu a fait dans sa vie. En comptant sur l'aide de Dieu, il proclame son engagement à le suivre et à le servir fidèlement en tant que disciple authentique de Christ. Alors j'aimerais vous dire trois choses à propos de l'engagement du disciple. Premièrement, être disciple, c'est suivre Jésus et non pas un idéal. Deuxièmement, être disciple, c'est suivre Jésus de près et non pas de loin. Et troisièmement, les disciples sont appelés à être et à faire. Être avec Jésus, à faire ce qu'il demande. Un disciple pour être avec Jésus, pour vivre une vie qui honore Dieu, il faut être imprégné de lui. C'est vivre une vie, une marche en avant, de progrès en progrès, pour l'assainissement de notre pratique de vie. Avec l'aide de Dieu, la voie de la sanctification procède quelque part d'une volonté humaine, dans le sens où le disciple tend à se dégager de la pratique du mal, c'est-à-dire à ne plus prendre plaisir au péché. C'est ce qui doit caractériser un disciple de Jésus. Mais la sanctification est une action divine dans le sens où la présence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, vient habiter dans le croyant pour y faire sa demeure, pour y laisser son empreinte, sa force. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Un disciple pour quoi faire? Un disciple pour faire quoi? Suivre l'exemple de son maître. Plus loin dans ce même évangile de Marc, Marc cite Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons faire ce que notre maître a fait. Dans le domaine du témoignage, dans le domaine de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, le salut de Dieu, et dans le domaine de la relation et de la pratique de l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie afin de racheter un peuple pour qu'il lui appartienne. Et le salut est actuellement, encore aujourd'hui, offert à qui se repent, à qui croit et donne sa vie à Jésus. Le salut est un don de Dieu. La vie chrétienne, la vie de disciple, est un défi. Si nous voulons être utiles à notre maître, si nous voulons être de vrais disciples du Seigneur, quelque chose en nous doit céder. Notre moi, pour lui laisser la place, pour lui faire confiance. Alors, le message du disciple au monde. Jésus disait à propos de son Père céleste, ce que j'ai entendu de lui, de celui qui m'a envoyé, je le dis au monde. Nous aussi, nous devons faire ce que Jésus nous a appris. Annoncer la parole de Dieu et rien d'autre. Toute la parole de Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité. Jésus vivant au siècle des siècles et qui va revenir. Le travail du disciple dans le monde, Jésus pouvait dire, je ne puis rien faire de moi-même. Jésus était parfaitement dépendant de son Père en tout temps et en tout lieu. Il faisait la volonté de celui qui l'avait envoyé. Nous aussi, nous sommes dépendants de lui. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Les disciples trouvent dans la Bible, la parole de Dieu, ce qu'il doit connaître et accomplir, c'est-à-dire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'il les pratique. Alors, en conclusion, je vous laisserai ce verset de Matthieu. Parlant des disciples, Jésus leur dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, il y a un peu plus d'une semaine, je terminerai là-dessus. À quelques-uns parmi nous, nous avons assisté à la cérémonie d'ensevelissement d'une personne âgée chrétienne. À cette occasion, une phrase a été prononcée par l'une des petites filles de la mamie. Des paroles pleines de tendresse, pleines de vérité vécue et partagée. Je vous livre cette phrase. Donc, parlant de sa mamie, elle a dit ceci. « Mamie, tu nous as aimés dès le premier jour de notre naissance. Et nous, nous t'avons aimé jusqu'à ton dernier jour. » Alors permettez-moi ce matin de plagier un peu cette phrase que vous pouvez, je l'espère, en tout cas vous approprier. « Seigneur, tu nous as aimés dès le premier jour de notre naissance. Donne-nous de t'aimer jusqu'à notre dernier jour. De t'aimer et de te servir en disciple authentique jusqu'à notre dernier jour. Amen. »